Et maintenant, sur Europe 1, c'est le moment de l'émission où l'on tente de me décrédibiliser, voire de me ridiculiser devant la France entière. Parce que vous savez, Europe 1, c'est toute la France qui nous écoute. Eh bien, c'est Born to be Alive.
C'est pas que la France, c'est aussi les pays proches. Je vous assure, j'ai fait un portrait d'une Anglaise, et elle m'a écrit sur Instagram.
Non, c'est vrai. Oui, moi aussi, à propos de Juan Carlos.
Moi, c'est sur Annabelle Bennett, elle m'a écrit.
Et elle me dit du mal, parce que vous avez... C'est une Espagnole qui m'écrit en anglais.
Ah, je suis content d'être détesté à l'international. Vraiment, ça fait du bien. Merci beaucoup,
Stéphane.
En tout cas,
on sait qu'Europe 1 est écoutée au-delà des frontières.
Exactement. Bon, en tout cas, c'est pas du tout le principe de ce quiz.
Non.
Ce quiz, c'est un quiz qui va nous permettre d'apprendre tout en nous amusant avec moult anecdotes historiques. Après, si vous plantez totalement Stéphane, j'avoue que ça peut me faire sourire. Alors, ne me décevez pas. Hein, on va jouer. On commence avec vous. La péninsule russe de Yamal s'avance sur 700 km dans l'océan Arctique depuis la Sibérie occidentale. En 2007, un nénets, un habitant du coin, découvre un bébé mammouth laineux, congelé vieux de 41 800 ans.
Oui.
Et pourtant, il ne le touche pas. Pourquoi il ne le touche pas? Plusieurs propositions. Il a dit que ça portait malheur, il a dit qu'il lui rappelait sa femme, ou il a rien dit, il a appelé son cousin qui en a fait un manteau.
Je pense qu'il a pensé que ça portait malheur et qu'il n'a pas touché, il n'a pas voulu y toucher, c'est ça.
Ça portait malheur, on vérifie.
Vous avez... gagné!
Bon, oui, c'était la réponse la plus évidente et vous avez bien fait de la choisir. Il ne l'a pas touché, ça porte malheur selon le peuple nénets. Il est allé chercher le directeur du musée le plus proche. Le temps de revenir, le bébé mammouth a été volé.
Ah!
Voilà. Mais retrouvé peu de temps après, juste avec une oreille en moins quand même.
Ah bon, quand même?
Ouais, les chiens du voleur les ayant grignoté les oreilles du mammouth. C'est quand même dommage.
Ah, hein, intéressant.
Ils aiment le surgelé, les chiens.
Non, c'est pire que ça, si vous savez. Mes chiens, par exemple, adorent les animaux empaillés. Et ils les bouffent, ils ne savent pas qu'ils sont empaillés.
Mais vous avez beaucoup d'animaux empaillés chez vous?
Non, mais chez les autres. Si vous m'invitez, évitez d'avoir des animaux empaillés.
Mais excusez-moi, c'est bien d'été qu'à la poêle rat.
Donc ils s'attaquent. Dur.
À poêle
dur. Oui, ils sont des chasseurs.
D'accord. Et ils s'attaquent à quelle taille d'animal?
Aux sangliers.
Ils sont des chasseurs civilisés, ils ne s'attaquent qu'aux animaux empaillés.
Ouais. Ils ne font pas la différence. Ils disent, tiens, en voilà un qui ne résiste pas. Et donc, ils le boulottent.
Une question pour Clémentine. En 1938, dans le Code civil, la notion de devoir conjugal disparaît, en tout cas dans les textes. Vrai ou faux?
Écoutez, il y a dû avoir un certain nombre de mesures prises en 1938, puisque je crois me souvenir que l'obligation pour une femme mariée d'avoir l'autorisation de son mari pour pouvoir s'inscrire à l'université, c'est 1938. Alors, il y a quand même les devoirs des époux, mais
le devoir conjugal, c'est d'être obligé de faire l'amour quand
c'est
son
ça.
Mari
mais le devoir conjugal, mais est-ce que le devoir conjugal figurait dans le code civil de Napoléon? Vous croyez, Stéphane, qu'il y avait quelque chose sur la femme doit remplir son devoir conjugal?
Vous l'avez dit, elle était misogyne.
Non.
Vous avez un doute
d'un
seul coup.
Non, maintenant j'ai un doute, je dis non. Non.
Vous dites non? Allez, non.
Vous avez gagné.
Vous avez bien fait, le devoir conjugal n'a jamais existé. En tout cas, pas formellement. Par contre, les juges ont rendu plusieurs arrêts en estimant que les époux s'obligeant mutuellement à une communauté de vie s'engagent à une communauté de toit et de lit. Ainsi, en 2019... la cour d'appel de Versailles a prononcé un divorce au tort exclusif d'une femme de 66 ans, car elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari.
Ah oui?
Ah oui, en 2019.
Eh ben.
Je crois qu'on ne pouvait pas dire mieux que ça. Une question pour vous, Stéphane. L'année dernière, cela fait 70 ans que la Grèce et la Turquie ont fait leur entrée dans l'OTAN. L'année dernière aussi, on a fêté les 70 ans de Jean Roucas. Si Jean Roucas s'appelle Jean Roucas, c'est que son oiseau préféré était le choucas. Mais petit, il n'arrivait pas à prononcer le nom du volatile. Donc il appelait Roucas. Vrai ou faux?
Ah, ça c'est une question.
Je ne peux pas avoir plutôt la question sur la Grèce et la Turquie, ça m'intéresse davantage.
Non, j'ai essayé de vous intéresser au début là-dessus.
Et puis je me suis dit, tiens, ça démarre bien.
Voilà.
On va parler de... Moi je dirais non.
Vous diriez non?
Non, je ne vois pas le rapport entre Roucas et choucas.
Moi je dirais oui.
Ah, voilà, je la retrouve, ma Clémentine.
Vous vous souvenez, dans son émission, il y avait toujours un corbeau qui est présent, là. C'était peut-être une allusion.
Vous parlez quoi, du bébé de chaud ou des roucasseries?
Du bébé de chaud.
Ah oui, mais c'est parce qu'il n'y avait que des animaux. En même temps, il y avait aussi un cochon.
Ouais.
Il y avait Georges Marchais, Piggy la cochonne. Alors?
Je n'y crois pas trop, mais je ne sais pas, je ne connais pas Jean Roucas.
Donc vous dites non. On vérifie.
Vous avez encore gagné.
Eh ben oui, vous avez gagné. Il tient son nom du quartier de Marseille, le Roucasse Blanc, où Jean a passé son enfance. Voilà.
Vous avez voulu
Non, mais pas du tout. Non, parce que je savais qu'il y avait il y avait une anecdote autour de son nom de famille, mais j'avais oublié laquelle.
Laquelle, bien sûr.
Et le corbeau, je crois aussi. Mes souvenirs, c'était Michel Rocard dans Le Bébé de Chaud.
Oui.
Eh ben, un choucasse, oui, c'était pas absurde, hein. Moi, j'aurais sincèrement répondu oui, j'ai pas du tout voulu vous manipuler.
Un petit peu quand même. Mais je vous retrouve bien là. Une question pour vous maintenant. Je vous ai parlé de la Saint-Valentin tout à l'heure, on y vient. Parfois, à travers l'histoire, les massacres ont des noms bizarres. Ainsi, en 1952, il y a eu le massacre de la Saint-Valentin. Vrai ou faux?
Vous avez entendu parler d'un massacre de la Saint-Valentin en 52? Et qu'est-ce que ça aurait été en 52? Où ça? Vous pouvez me préciser le pays?
Un territoire français, tout ce que je peux vous dire.
En Corse, peut-être. En Nouvelle-Calédonie. Oui. Il y a eu...
Oui, en Nouvelle-Calédonie, c'est ça la réponse ou...
Non, je dis oui, il y a bien eu un massacre de la Saint-Valentin français en 1952.
D'accord, vous pouvez nous en dire plus ou...
Non, parce que ça serait trop long.
Quel escroc. Allez, on vérifie.
Vous avez...
Encore gagné ?
Bah oui, bravo. Ça c'est comme Jean
Total
Roucas,
bluff.
C'est la base.
Total bluff, ça s'est passé en Guadeloupe.
Ah, voilà.
Lors d'une grève dans une usine de sucre, les employés demandaient une augmentation de salaire. Il y a eu des barrages, des piquets de grève, bilan, 4 morts et 14 blessés.
Ah la vache.
On a appelé ce massacre de la Saint-Valentin, car il était évidemment survenu le 14 février 1952. Il va falloir une question pour vous départager.
Oui.
Le président Jimmy Carter... même quand il ne l'était plus, jouissait d'une forte popularité auprès des Américains. Si Barack Obama possède un manoir de 8 millions de dollars à Washington DC, et Bill Clinton plusieurs maisons de plusieurs millions de dollars, combien vaut l'unique ranch de Jimmy Carter ?
2 millions de dollars.
Ben, j'allais dire 1, parce que c'est peut-être qu'il n'avait pas les mêmes... À moins que ce soit un truc absolument gigantesque. Eh ben...
Vous avez dit combien, Stéphane?
Il a dit 2. Bah ouais. Écoutez, moi je vais dire 20, autant aller très très loin et beaucoup plus cher.
Exactement, et vous avez bien fait, car vous avez perdu. Et vous êtes tous très loin de la vérité. En fait, le ranch vaut 167 000 dollars.
Ah oui.
Ah.
Il y a deux chambres, Jimmy et sa femme Rosaline aimaient boire du vin bon marché et pique-niquer dans des assiettes en carton avec leurs voisins. Ils faisaient eux-mêmes leur propre yaourt. Prenez-en de la graine, Stéphane.
Bah, Stéphane, il fait des cheesecakes, c'est pareil que faire du yaourt.
Oui,
hein.
Absolument. Exactement. Ils font pitié, donc... Bon, j'ai gagné, c'est essentiel.
Non, pas du tout, vous étiez trop loin.
Trop loin.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on avait perdu tous les deux parce que vous étiez trop loin.
C'est plus proche, c'est Stéphane qui a gagné.
Il était vachement loin. Non, franchement, à ce niveau
C'est le principe du jeu.
Non.
Vous contestez les règles.
Mais oui, c'est
dans quelques instants, vous saurez, chers auditeurs, si Clémentine a été punie ou pas.